Hashtag le Mag Sport avec Loïc Colombier.
Bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Mag Sport du 27 avril 2018. Pour ce dernier Mag Sport du mois d'avril, vous retrouverez un sommaire des plus chargés. Nous reviendrons en fin d'édition sur la 42e route du Sud, qui va désormais s'appeler route d'Occitanie, avec son président Pierre Cobain, qui nous fera une présentation circonstanciée de cette mythique épreuve cycliste 100% sud-ouest et aux fortes racines tarnaises, avec pas mal de nouveautés cette année. Nous reviendrons aussi sur le foot avec l'analyse à froid de Patrice Garrigue quelques jours après ce match nul 1-1 des filles de la SPT Albi en DM féminine pour la réception des Rafettes de Rodez, qui laisse un petit goût amer, on dira. Mais nous irons aussi à la rencontre d'une des joueuses cadres de ce club, la portière québécoise Gabrielle Lambert. Mais débutons ce mag avec nos amis du Sporting Club Albigeois qui depuis lundi ont repris l'entraînement en mode commando avec pour objectif suprême sortir la grosse perf au stade Robert Diochon de Rouen vendredi prochain, car après les désillusions subies contre Rouen et à Strasbourg lors des ultimes journées de championnat de Fédéral 1 Elite, au Sporting Club Albigeois on est en mode mobilisation générale. Lundi, les joueurs du SA sont donc revenus à l'entraînement, le corps un peu fourbu de ces 26 heures aller-retour de bus et la tête un brin en vrac après ce match où les jaunes et noirs sont passés, disons-le clairement, à côté. Cette piqûre de rappel, qui sait, sera peut-être salutaire à l'orée de cette Fédéral 1 élite et permettra sûrement à nos rugbymen albigeois d'aborder cette double confrontation contre les Lions de Rouen avec la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés sur terre. Les joueurs entre eux, puis le lendemain avec les dirigeants et le conseil d'administration, se sont réunis pour remettre tout à plat et repartir sur de bonnes bases, car l'accession en Pro D2 est vitale tant sportivement qu'économiquement pour le club de la préfecture tarnaise. A ce sujet, écoutons le centre du Sporting Club Albigeois revenir avec nous sur son match contre Strasbourg, son état de santé et l'état d'esprit du groupe avant ce déplacement ô combien périlleux en terre normande. On a un habitué du Mag Sport à notre antenne, le taureau du Limousin et ex-voréen Gaëtan Bertrand. Gaëtan, bonjour, bonne soirée.
Bonjour.
Bon Gaëtan, revenons rapidement avant de nous projeter sur ces demi contre Rouen, hein, sur ce match à Strasbourg qui fut une pâle copie rendue par le Sporting Club Albigeois. Ton entraîneur Arnaud Mella, pour ne pas le citer, a mis en exergue le long trajet de 13 heures, les premières chaleurs pour donner quelques éléments d'explication. Mais tu ne penses pas qu'il y a aussi un ressort psychologique qui s'est cassé dans le groupe après la défaite contre Rouen au Stadium il y a de cela 3 semaines?
Ouais, je pense que ce match contre Rouen nous a fait un peu mal à la tête du fait de le perdre et de perdre la possibilité de monter directement en Pro D2 au passage. Donc voilà, je pense qu'il y a eu peut-être un petit coup au moral sur les troupes. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'on a été quand même on était assez fatigués sur le terrain, ça s'est assez ressenti quand même.
Oui.
Donc voilà, je pense que il y a eu un petit point aussi psychologique qui rentre en compte sur ce match. Ouais.
Après 13 heures de bus, ça doit être quand même compliqué à gérer pour les sportifs de haut niveau que vous êtes, hein, tous, hein, au Sporting Club Albigeois. C'est des mécaniques, comme on dit, de précision, hein, un sportif de haut niveau. Ça doit être quand même compliqué à gérer et à magasiner sur le trajet.
Ouais, 13 heures de bus, c'était un peu long, c'est vrai. Mais bon, après, on a regardé à la vidéo le match et tout. Même avec les 13 heures de bus dans les pattes, on a de quoi le gagner. Oui. Avec un peu plus de jugeote et un peu plus de précision, je pense que ce match est à notre portée, donc voilà, il y avait un peu de suffisance sur le match aussi, quoi.
Et avec un arbitre peut-être un vrai moins myope sur l'essai de Laurent Magnaval.
Oui, sur l'essai de Lolo, il y a l'essai. Sur l'essai où Manitonga, il fait la passe, le ballon, il fait une chistera, il tombe en arrière, il dit en avant. Voilà, c'est des petits éléments. Voilà, il faut qu'on arrive à être un peu plus crucial pour réussir à faire basculer l'arbitre de notre côté aussi. Pour les phases finales, quoi.
Bien sûr. Alors, une seconde petite question sur le match de Strasbourg. On a vu que lors de ce match, où tu fais ton retour après une sévère suspension de 2 matchs, tu as pris d'entrée, on va dire, un tampon monumental. Tu es passé pas loin du protocole commotion. Tu peux nous raconter un peu comment s'est passée cette action et comment vas-tu surtout?
Là, ça va mieux. C'est vrai que direct des coups d'envoi, le 10 a bien monté le ballon et il m'a bien cueilli le deuxième ligne fidien à la réception. Mm-hmm. Donc voilà, bon, j'ai fait comme une petite commotion. Voilà, j'ai quelques vagues souvenirs de la, des 20 premières minutes. Je ne me souvenais pas de, trop de tout.
T'as joué au radar en clair?
Ouais, voilà, ouais. J'ai eu un peu, voilà, j'avais un peu de problème de vision floue, tout ça, mais bon, je me suis dit que ça allait revenir, voilà, d'ici là, après, en deuxième période, ça allait mieux quand même. Mais voilà, donc devant l'arbitre aussi, plaquage à l'épaule comme dans la tête directe, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé au sol avec les idées pas trop claires. Et voilà, après j'ai eu quelques migraines le lendemain et le dimanche, mais bon là ça va mieux. Les côtes m'ont laissé repos toute cette semaine pour essayer de récupérer au mieux, quoi. Mais ça va beaucoup mieux quand même.
Ok, bon, c'est l'essentiel déjà. Donc ouais. Maintenant, cap sur Rouen, où les Normands vont vous attendre, à toi et tes copains du Sporting, dans un stade du Auchan qu'on annonce comble de ses 10 000 places. Ça risque d'être un grand moment de ta carrière, car quand on joue au rugby, c'est pour vivre des moments comme ça. Et puis ces ambiances en février, c'est aussi un supplément d'âme.
Mais sûr, on joue au rugby pour les moments comme ça, jouer des phases finales. Moi, j'ai eu la chance d'en jouer la dernière avec Labor. J'en ai joué avec Quive, j'en ai joué un peu avec Perpignan aussi, donc... Voilà, c'est des moments, voilà, on traîne toute la saison, aux entraînements, tout ça, pour réussir à décrocher les phases finales. Et voilà, là maintenant on y est. Et puis voilà, faut tous être dans la bonne marche, quoi. Regarder tous pareil. Et voilà, bah, c'est les bons moments.
Et alors cette équipe de Rouen, en quelques mots, comment tu la décrirais, maintenant que tu l'as joué quand même deux fois?
Ouais, je les ai joués deux fois et ben c'est vrai que c'est une équipe très très joueuse avec beaucoup de Britanniques au sein de leur équipe, donc c'est vrai que c'est une équipe qui joue assez coordonné, c'est tout ce qu'ils font c'est assez huilé, mais ça marche bien, quoi. C'est un jeu basé sur l'offensif et avec une bonne conquête devant, des trois quarts derrière, voilà, assez complémentaire avec un centre solide, un second centre qui va assez vite. Des ailiers qui vont vite, donc voilà, c'est une équipe qui est complémentaire partout, ils ont des bons joueurs à tous les postes, donc voilà, une bonne équipe et qui joue bien en rugby.
C'est pas spectaculaire, mais c'est redoutablement efficace, comme on dit dans le jargon.
Oui, voilà, ouais, c'est sûr qu'ils relancent pas de l'embut, tout ça, mais voilà, quand ils se mettent à jouer, que ça accélère, c'est huilé, donc ça marche bien.
Alors, on sait aussi que tous les joueurs, vous vous êtes réunis au cours de la semaine pour faire le point, que le conseil d'administration est venu vous remobiliser. C'était vraiment urgent de le faire à ce moment, puisque je pense que le coup de ce Mons contre Rouen et contre Strasbourg avait fait mal aux têtes.
Ouais, c'est vrai que ces deux matchs ont fait mal aux têtes, mais voilà, on s'est dit entre nous qu'il fallait un peu oublier ces deux matchs passés et que maintenant... Voilà, on avait quatre matchs certainement à gagner pour obtenir notre billet pour monter en Pro D2 et qu'il fallait qu'on soit tous ensemble positifs et qu'il fallait oublier un peu ce qu'on avait fait et voilà, remettre la marche en avant pour réussir à franchir un cap. Et voilà, donc ça passait par de bons entraînements, être sérieux aux entraînements, avoir une bonne hygiène de vie pendant le mois qui arrive, voilà, tout ça, quoi.
Ok. Allez, on va passer sur une question un peu plus perso. Tu suis toujours aussi assidûment tes anciens copains de la SV Lavore et que penses-tu de leur parcours cette saison? Et puis en plus, si malheureusement, et on ne le souhaite pas, et le SCA ne montait pas en Pro D2, tu pourrais les affronter la saison prochaine?
Oui, bien sûr, je les suis toujours. Hein. Quand on joue les samedis ou vendredis, je suis souvent au stade avec les copains de Lavore au Closade à Lavore. Donc voilà, non, ils font une bonne saison. Là, ils sont troisième. Ils vont jouer un match important ce week-end à Lombez, qui Lombez joue la survie et Lavore joue la deuxième place ou garder la troisième place. Donc voilà, ils ont fait une très bonne saison et là ils vont attaquer les phases finales. Donc je leur souhaite de réussir au maximum. Et voilà, donc si on est amené à aller jouer l'an prochain, ce que je n'espère pas,
imagine.
Ça va être un truc assez spécial, ouais, c'est vrai.
Ok. Allez, Gaëtan, on va finir sur une note affecte en te demandant de faire un petit appel au public albigeois pour se mobiliser pour ces échéances cruciales pour le club, que sont les demi-finales et puis après peut-être les finales, ce qu'on espère tous ardemment. Et puis si tu veux aussi, tu peux faire un petit coucou, un appel à tous les copains et la famille du Limousin qui te suivent de très près.
Ouais, ben bon, c'est vrai qu'on a besoin de tout le monde au stade là pour essayer de galvaniser tout le monde. C'est vrai que quand on a un stade rempli, ça fait du bien au moral et dans les moments durs, quand on entend le public qui nous pousse derrière, c'est très important. Donc j'appelle un peu tout le monde à venir au stade, nous encourager, et voilà, et les copains bourréens, s'ils m'entendent, qui montent, ils sont les bienvenus.
Ok, le message est passé, Gaëtan. On te remercie d'être, d'avoir pris le temps et d'être venu à notre antenne. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain au stade de Diochon avec, on l'espère, la gagne au bout.
D'accord. Allez, merci. Au revoir.
Au revoir, ciao.
Comme vous l'avez entendu de la bouche même du plus limousin des Albigeois, côté entraînement cette semaine, ce fut quasiment le leitmotiv suivant, no pain, no gain, car l'adversaire qui arrive est redoutable d'efficacité. Les Vikings normands ont qui plus est érigé dans leur élément de communication cette demi-finale en match historique. Pour preuve, exit le vétuste stade Mermoz et sa piste cendrée, et bonjour le stade Robert Diochon, normalement dévolu au footeux avec ses plus de 8000 places assises que l'état-major rouennais veut ériger en véritable chaudron pour cette demi-allée. Tout un programme pour nos abeilles du SCA qui vont monter en Seine-Maritime pour aller à la guerre, car le 4 mai ce sera le D-Day et Arnaud Mella et ses troupes vont devoir faire un remake de l'opération Overlord s'ils veulent que ce fol espoir de Pro D2 continue d'emplir nos pensées de support. Jeudi après-midi et ce vendredi était off du côté des Jeunes Noirs avant de reprendre dès lundi sur les chapeaux de roue avec deux entraînements sur les annexes du stadium. D'après nos sources, le départ des joueurs pourrait avoir lieu mercredi dans la journée ou la matinée en bus pour un périple de 8 heures. Cela laisserait présager une mise au vert jeudi avec entraînement en terre normande, une mise en place traditionnelle le vendredi matin et bien sûr le choc le vendredi soir à 20h45 face au Rouen Normandie Rugby et sa pléiade de joueurs et d'entraîneurs. British. Mais comme les Reds de Liverpool, en foot, nos jaunes et noirs ne marcheront jamais seuls, car il se dit que Reynald Brunet et Pierre Combes et toute l'équipe du comité d'animation de SCA s'évertuent à monter un bus pour aller soutenir les gladiateurs albigeois qui vont défier les descendants de Guillaume le Conquérant. En parlant de soutien, ils auront même le soutien d'une grande partie des dirigeants du SCA qui, au nombre de 9, vont faire le dépassement en terre normande via l'avion jusqu'à Paris, puis dans un minibus qui les mènera sur Rouen. Le président du club ne sera pas là pour une fois, mais les châtelains, comme les appellent avec humour les supporters, seront présents en masse pour bien montrer aux joueurs qu'ils ont tout leur soutien et qu'ils ont une partie de la destinée du club entre leurs mains. Par contre, hier, le président Romain Goux, joué par téléphone, nous faisait connaître que la chaîne et l'équipe les avaient recontactés pour diffuser les deux demi-finales opposant Albi à Rouen. Tout compte fait, mais côté sporting, pour la demi-retour, on a posé deux conditions. Le maintien de l'horaire à 19h30 ou au pire à 19h45, car le club ayant déjà lancé sa com sur ces heures-là, et une rétribution financière de nos confrères de la télé pour la retransmission. Quant à l'aller, Éric Leroy, co-président du club, jouant téléphoniquement cet après-midi, il nous a affirmé qu'il n'y aurait pas de retransmission de TV, car son club souhaite remplir au max le stade Diochon et a été un peu chagriné par les atternoiements, on dira, de l'équipe qui, selon ses propos, un jour il nous diffuse, un jour c'est non. Donc la décision est tombée ce matin, il n'y aura pas de diffusion des demi pour Rouen et Albi. À moins que l'équipe sorte le chéquier, mais ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps, comme on dirait. Donc, en tout état de cause, si vous voulez suivre ce choc entre Rouen et le Sporting Club Albigeois, ce cela sera sur les ondes de Radio Albigès, avec votre serviteur bien sûr, Vincent Clément et Didier Rovellat, qui suppléera à Seb Pagès, retenu par des obligations familiales, grâce entre autres à l'hospitalité des deux coprésidents normands, messieurs Louvel et Leroy, qui avec sympathie ont pris en charge l'hébergement de notre petite troupe. Et on les en remercie grandement. Tant qu'on en est au remerciement, j'ai une grosse pensée aussi à nos mécènes locaux et proches ou moins proches du SCA, qui font tout pour nous faciliter ce déplacement. Ils se reconnaîtront et qu'ils sachent qu'ils ont notre éternelle reconnaissance. Maintenant, comme tout le monde, il nous tarde que cette semaine de pomme passe vite pour être au jour J et que nos jaunes et noirs débarquent en Normandie avec un esprit conquérant et portent haut le blason de notre ville. Par contre, il y en a un qui ne pourra pas participer à ces matchs qui ont une saveur si particulière, c'est notre couteau suisse des lignes arrière, Benoît Sicard. Nous sommes cet après-midi à aller prendre de ses nouvelles. Écoutons notre interview.
Allô maman bobo. Allô maman bobo.
Nous sommes maintenant après Gaëtan Bertrand avec un autre bon client, on va dire, du Maxport, Benoît Sicard. Benoît, bonjour, bonne soune.
Salut à tous.
Bon, alors Benoît, on t'a à l'antenne parce qu'on a appris ce vendredi dernier, plutôt, une très très mauvaise nouvelle. Contre Benoît, tu t'es ressenti un peu du genou et puis à l'entraînement, avant le déplacement à Strasbourg, ça a craqué et tu aurais, d'après ce qu'on a eu comme écho, une rupture des ligaments croisés, malheureusement.
Eh ben ouais, voilà, exactement, c'est bien ça. Donc, du coup, contre Aubenas, voilà, le 1er avril, là, le week-end du 1er avril, à la fin de la rencontre, là, pratiquement, il restait 2-3 minutes de jeu, et tout seul sur un appui, voilà, j'ai senti le genou craquer, donc voilà, sur le moment, ça fait super mal. Mm-hmm. Et donc de là, du coup, j'ai eu deux semaines de repos où le genou n'a pas gonflé, et voilà, j'étais comme neuf, quoi, on va dire, dans la vie de tous les jours, j'avais pas mal, je ne me ressentais pas de douleur, donc j'avais repris la course normalement. Et, ouais. Et après, le lundi, du coup, j'avais en reprenant l'entraînement, là, au bout de 20 minutes, intensité, à haute intensité, du coup, sur un appui, voilà, le genou qui est reparti. Et la douleur était moins forte, mais voilà, donc du coup, ben, j'ai passé une IRM à l'issue de tout ça, et donc ouais, l'examen, ben voilà, rupture complète du latéral, donc croisé antérieur, du ligament croisé antérieur.
Tu t'attendais pas à ça quand même, tu pensais que c'était un peu plus bénin, non, je pense, comme blessure.
Ouais, exactement, ouais, non, je m'attendais pas du tout à ça, parce que voilà, j'ai vu comme voilà, premier signe apparemment d'un croisé, il y a le genou qui gonfle, donc on peut avoir aussi le genou qui est rempli de sang, et moi c'était pas du tout le cas, donc j'étais plutôt rassuré sur ce point. Mais bon, après, voilà, malheureusement, c'était ça, quoi. C'était, ouais. C'était voilà, le croisé qui a pas tenu, donc
non. La tuile, comme on dit.
Ouais, exactement, ouais. Mais apparemment, voilà, j'avais un croisé déjà abîmé depuis 4-5 ans, voilà, donc ça me pendait au nez, quoi, voilà.
Ok, alors quand t'as appris ça, c'est quoi les émotions qui t'ont traversé? Je pense que ça va être beaucoup de déception, surtout qu'on te reverra pas sur les terrains avant la fin de l'hiver 2018.
Ouais, bah déjà, voilà, déjà ma première pensée, bah, c'était que je vais rater tout le mois de mai. Mmh. Donc bah déjà le mois de mai, donc bah, c'est les phases finales, et donc bah, ça me fait clairement chier d'être dans les tribunes et de voilà de regarder ça d'un œil extérieur. Donc ouais, j'étais vraiment vraiment dégoûté, et vraiment un peu au fond du saut, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben bah, après voilà, j'ai de suite j'ai mis une journée vraiment à m'en remettre, et après voilà, après il faut voir les points positifs, donc de suite après ça. J'ai fait le point, voilà, sur les choses positives, et donc après voilà, ça va mieux. Maintenant j'ai relativisé, et voilà, donc je m'y suis fait. Voilà, je suis fataliste là.
Ok. Alors là, le seul avantage, on va essayer d'être dans le positif, c'est que tu vas pouvoir suivre d'un regard objectif et tes camarades et extérieur, un regard objectif et extérieur, tes camarades lors des phases finales. Tu as pu le faire aussi vendredi dernier contre Strasbourg. Une analyse maintenant à froid de ce match à Strasbourg, ça n'a pas été non plus la joie. C'était, une, comme disait Gaëtan Bertrand, une pâle copie, mais qu'est-ce que tu en tires, ce match?
Ouais, ben d'un point de vue extérieur, ben pareil, je pense de l'avis de tous, voilà, c'est que je reconnaissais pas mes copains et mes coéquipiers, quoi. Alors, donc depuis deux matchs là, face à Rouen et Strasbourg, voilà, on avait un tout autre visage, donc ouais, non, voilà, l'analyse extérieure, c'est que on n'y était pas, quoi, on n'y était pas clairement, on n'avait pas le couteau entre les dents, et on n'était pas prêt, voilà, dans l'agressivité, on n'était pas prêt. Et quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que voilà, au moins on s'est mis un peu dedans avant les phases finales, et ça va, voilà, comme tout le monde l'a dit là, j'écoute un peu toutes les déclarations de tous les joueurs, et c'est vrai que ça va nous faire du bien, quoi, voilà, peut-être pas remettre les pieds sur terre, parce que on n'était pas forcément sur un nuage, hein, mais au moins voilà, on sait où on est maintenant, et voilà, on sait clairement, ben, les étapes qu'il faut faire pour pouvoir atteindre la finale et la gagner, quoi, surtout ça.
Ah oui, là, on risque pas d'avoir une crise de melonite aiguë avec les deux dernières défaites.
Ouais, non, complètement, ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, là, il faut remettre le bleu de chauffe, et ça a été un peu le leitmotiv cette semaine. Donc voilà, moi, je les ai regardés s'entraîner, ils se sont entraînés très dur cette semaine, mm-hmm. Ils se sont rentrés dedans comme il faut. Donc voilà, une belle piqûre de rappel, une, ça n'a pas suffi, donc il en fallait deux. Et voilà, donc là je pense que on va être plutôt énervé contre Rouen, quoi, voilà.
Ça va être une grosse partie de manivelle en perspective, cette double confrontation contre Rouen, puisque c'est une très belle équipe, et le Sporting a aussi montré tout au long de la saison qu'on avait des armes à revendre, des atouts en main et en poche, donc en perspective, je pense qu'il risque d'y avoir match, comme on dit, un gros match même.
Ouais, ouais, bah, je pense que ça va être les deux demi-finales aller-retour, donc face à Rouen, ça va être les plus belles là
des phases finales.
Des phases finales, ouais, clairement.
Alors après, t'as peut-être un petit mot à faire passer à tes copains pour les encourager, toi qui vas être malheureusement derrière ton poste télé ou derrière ton poste radio, suivant que ça soit télévisé ou pas, pour leur donner un petit supplément d'âme et puis leur faire un gros clin d'œil.
Ouais, après bah, c'est pas forcément aux joueurs que j'ai envie de parler là aujourd'hui, mais c'est surtout
au public,
aux supporters, voilà. Donc non, après ils ont été déçus comme nous tous, voilà, vraiment on a été les premiers déçus de ces résultats là, de ces deux derniers résultats. Donc il faut comprendre que là maintenant on est sur des phases finales et donc on a vraiment besoin de tout le monde et tout le soutien qu'on peut avoir là, ça va être doublé, ça va être décuplé, voilà, sur l'envie des joueurs sur le terrain. Je peux vous dire que quand on est sur un terrain et qu'on voit un stade en ébullition et que ça gueule de partout, que voilà, on se sent pousser les ailes et derrière, voilà, on peut faire des choses extraordinaires. Donc on n'est pas que 15 ou 22 ou 23 sur un terrain. Voilà, faut savoir qu'il y a les publics aussi et on compte sur eux. Donc il faut qu'ils nous soutiennent. Bon, pour moi, c'est peut-être un peu loin, mais voilà, surtout à la maison.
Il paraîtrait qu'il y aurait un bus qui serait en train de se monter pour monter à Rouen.
Eh ben, ça serait une très bonne nouvelle. Ouais. Ça serait une très bonne nouvelle. Mais voilà, on a surtout besoin du public au stadium, quoi. Voilà.
Il faut que le stadium redevienne la marmite infernale qu'il était il y a quelques saisons pour que, on va dire, il y ait une ferveur qui puisse pousser les joueurs jusqu'à la Pro D2. On va dire, la Pro D2, c'est quand même la maison du Sporting.
Ben ouais, voilà, il faut qu'on revienne en Pro D2 et surtout qu'en plus là, ça va être pendant le mois de mai, donc au mois de mai, il va faire beau, donc il va faire chaud et voilà, ça sera du spectacle pour tout le monde.
Bon, ben merci Benoît pour ces petits mots que tu as pris le temps de nous donner à notre antenne. On te souhaite une très très bonne convalescence pour cette rupture des ligaments croisés et on espère te revoir le plus vite possible sur les terrains et puis on ne manquera pas de venir prendre des nouvelles d'ici quelques temps pour voir comment évolue ta blessure et quand c'est qu'on te reverra sur le pré.
Ça marche, ouais, super sympa.
À bientôt Benoît.
À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Pour finir cette chronique SCA, une brève rumeur et transfert. Allez, Arnaud, jingle, breaking news. Comme annoncé dans notre précédente édition, Julien Guyard, le patron du centre formation du club, serait grandement courtisé par Agen pour prendre la direction de la pépinière Lot et Garonnaise. Joint, comme nous vous le disions un peu plus tôt, téléphoniquement, Alain Roumégoux, le président du SCA, nous a confirmé que Jules Guyard, cheville ouvrière du projet SCA 2021, présenté en juin 2017, mènerait une réflexion sur la suite à donner sur son aventure dans le club de la cité Qatar. Le président albigeois nous a confirmé que des propositions avaient été faites à Julien Guyard et qu'il devait se re-rencontrer prochainement pour faire le point. De plus, Alain Roumégoux a unanimement reconnu les qualités et le travail effectué au club par Julien Guyard, qui, rappelons-le, les avait aussi dépannés la saison dernière pour l'équipe Fagnon et qui cette année est en tête du championnat avec les espoirs. Le président Jaune et Noir espère grandement pouvoir convaincre le patron du centre formation de rester en terre albigeoise, mais nous a assuré qu'en cas de départ de ce dernier, le club se pencherait sur un profil similaire ayant des diplômes, de l'expérience et des compétences reconnues en la matière. Car, comme vous l'avez entendu sûrement sur les bords de terrain, une rumeur depuis une dizaine de jours, émanant, certains disent, de l'assaut du Sporting, qui, entre parenthèses, joue toujours la montre au passage pour signer la convention, attention à ne pas jouer avec le feu quand même, a fait grand bruit. L'assaut qui, si ça vient de cette entité, sûrement spécule sur une non-montée du club en Pro D2 et se voit déjà rafler la gestion intégrale du club, souhaite avancer ses pions. Et donc un nom est sorti qui en a fait tomber plus un de la chaise et qui paraît pour le moins ubuesque puisque ce monsieur est actuellement en activité dans le monde de la presse et n'était pas connu actuellement pour avoir des prérequis et des diplômes pour occuper le poste plus que sensible et primordial de patron du centre de formation. Mais bon, ne préjugeons de rien à l'avance, car comme certains le disent, le fait de ne pas trouver peut aussi amener un regard nouveau et extérieur sur la formation. À voir. Enfin, avant de ruer dans les brancards, attendons de voir si ceci est du lard, du cochon ou une grande tentative d'enfumage médiatique et populaire. En clair, un coup de bluff. Car quand nous avons demandé au président Roumégoux s'il avait eu vent de cette rumeur assez surprenante, il nous a répondu goguenard que oui, et qu'il en a été le premier surpris et estomaqué. Mais a surtout précisé que, jusqu'à preuve du contraire, le directeur du centre de formation était employé de la SASP et que c'était donc cette dernière qui choisirait le réélu en cas de départ de Julien Guyard et qu'il n'envisageait pas pour le moment, mais pas du tout, ce genre de profil. Cela a le mérite d'être clair, affaire à suivre. Allez, concluons sur le sportif, loin des ambitions et de chacun et des jeux de chaise musicale. On va faire un petit appel. Peuple jaune et noir, il reste une semaine avant ce choc face au Rouen Normandie Rugby. Allez, on se mobilise tous car ils en auront besoin et on pousse fort derrière nos... Allez, maintenant on va passer au foot avec les filles de la SPT qui ont repris ce mardi le chemin d'entraînement après leur match nul un partout face au Rafet Rodez dans leur course effrénée au maintien en D1 féminine. Les albigeoises restent au-dessus de la ligne flottaison avec un point d'avance sur les ruthénoises premières relégables et vont devoir dès le prochain match le 13 mai à Guingamp aller chercher de gros points pour garder leur destin entre leurs mains. Mercredi soir, nous sommes allés voir un des deux coachs des Jaunardes pour avoir son sentiment après ce que son compère Théodore Genoux avait appelé une déception. Nous sommes avec Patrice Garrigue, un des deux co-entraîneurs de la SPDT. Trois jours après ce match nul au stade Rigaud contre les concurrentes au maintien et voisines du RAF, du Rodez Aveyron Football. Patrice, bonjour.
Bonsoir.
Donc, après ces trois jours où vous avez pu analyser avec la vidéo et tous les éléments modernes dont dispose un club de l'élite ce match, on va commencer déjà à rentrer dans le vif du sujet. Première question, 55e, pénalty, pas pénalty sur Pilacoury ?
Pénalty.
Et 65e, autre question bien sûr qui va de pair, pénalty, pas pénalty sur Manon Kans, sur Laurie Kansé, sur une, on va dire, mini obstruction de Manon Kaz.
Bon, ma réponse va être plus mitigée. À vitesse réelle, pendant le match, j'ai vraiment pensé qu'il y avait pénalty. Il s'avère qu'avec l'utilisation de la vidéo, ce dont tu parlais tout à l'heure, je suis plus sur la retenue. Voilà. Après, je pense que Manon Kaz fait le geste qui fait que Laurie Kans tombe et ce qui fait que l'arbitre peut-être se laisse influencer. Mais je suis plus sur la réserve. Je pense qu'à vitesse réelle, ça peut se siffler. Avec l'usage de la vidéo, je trouve que c'est sévère.
Surtout qu'en plus, je pense que l'arbitre a peut-être été aussi influencé par la différence de gabarit, puisque Laurie Kans, c'est une meneuse de poche. Manon Kaz est quand même un profil beaucoup plus costaud, et peut-être que c'est ça qui a aussi influencé l'arbitre.
Oui, c'est vrai que c'est deux profils de joueuses complètement différentes. Manon qui est grande, qui est plutôt trapue, et Laurie qui est très vive sur ses appuis, donc c'est vrai que ça a pu être le cas. Après, bon, je crois pas. Je pense que Manon, mine de rien, utilise pas la bonne technique défensive. Je pense qu'elle doit plus guider son adversaire vers l'extérieur, surtout que quand c'était assez excentré. Donc, à mon avis, juste la guider vers la ligne de sortie se suffisait. Alors que là, elle met le bras, ce qui fait que ça permet à Laurie de tomber et peut-être d'accentuer la chute. Donc, oui. Après, l'arbitre a peut-être voulu aussi protéger ce genre de joueuse, même si la faute n'est pas flagrante. Il me semble que dans le match, il y a eu des fautes bien plus graves sur Laurie. Donc voilà, en tout cas, ça permet de bien relancer Rodez et nous de nous faire perdre les deux points de la victoire.
Alors on va continuer à revenir sur ce match, on va dire, à froid, puisqu'on avait été revenu avec Théo Genoux à chaud. On a vu quand même deux éléments très positifs dans ce match, l'état d'esprit et le respect des consignes, parce que vous avez demandé à vos joueuses de jouer très très long, pas de vous débarrasser du ballon, mais presque, et ça a été respecté.
Mais disons que c'était, je dirais, une des améliorations, une des grands changements qu'il fallait avoir par rapport à notre dernier match de Marseille, puisque là, on avait été complètement inexistant sur l'engagement, sur l'envie, sur la motivation, sur la volonté. Donc là, voilà, on avait vraiment mis l'accent là-dessus. Les filles ont été au rendez-vous, donc ça, on peut les féliciter par rapport à ça. Et ensuite, il me semble aussi que c'est la moindre des choses quand on est joueur que de respecter les consignes du coach. Voilà, on essaie nous de réfléchir comment arriver à performer à partir de l'analyse de l'adversaire, à partir de nos points forts, de nos points faibles. Donc voilà, on avait mis en place un plan de jeu et je trouve que c'est presque normal qu'elles aient respecté les consignes. Donc oui, Je suis satisfait de ce point de vue-là aussi.
Alors, hier, mardi, ça a été la reprise de l'entraînement. Comment vous avez retrouvé vos filles? Dans quel état d'esprit? Pas trop abattu, pas trop déçu de s'être fait rejoindre dans les dernières minutes, dans les 20 dernières minutes, alors qu'elles avaient fait le plus gros du travail en ouvrant le score en première mi-temps?
Ben, je les ai déjà trouvées fatiguées, parce qu'il faut dire que c'était le premier match qu'on faisait sous d'aussi fortes chaleurs. Et avec le match qu'elles ont livré, donc, c'est tout à fait compréhensible. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, on avait quand même accès à l'entraînement sur la récupération. J'ai trouvé que l'entraînement a été sérieux, donc non, je ne les ai pas trouvés abattus. Je pense que nous aussi, on a su trouver les mots pour, je dirais, les relancer et faire en sorte que, ben, qu'elles lèvent la tête. Hein, parce que mine de rien, on est encore devant Rodez, on est un point devant, on a encore notre destin entre nos mains, à la différence de Rodez qui, même si elles font un parcours parfait, ben, elles dépendent quand même des autres. Donc nous, on a cette chance-là. Non, l'entraînement a été sérieux, appliqué, les filles étaient concentrées, ont bien répondu à nos exigences de travail, donc de la satisfaction sur l'entraînement d'hier.
Alors un petit mot sur la lutte au maintien, en regardant mathématiquement le classement, il n'y a personne qui est encore sauvé jusqu'à la 6e place, c'est quand même hallucinant, vous êtes 12 équipes et jusqu'au 6e, ça peut descendre.
Oui, c'est un championnat un peu bizarre cette année. Je pense que ça va rester même dans les annales et c'est assez exceptionnel. Oui, on sait qu'il y a de nombreux clubs qui mathématiquement ne sont pas sauvés. Je peux dire que c'est tant mieux pour nous. Ça veut dire que ça laisse des chances, ça nous laisse une chance importante et voilà, ça nous laisse l'occasion d'aller chercher des points à Guingamp puisque eux non plus, ils sont à notre portée. Alors c'est ce qui va rendre aussi la fin de saison compliquée parce qu'on sait que toutes les équipes vont aussi lutter et ont besoin de ces points-là. Donc c'est à double tranchant, mais voilà, moi je suis quand même très positif sur la fin de saison, et je la vois d'un bon oeil, donc je pense que voilà, les filles sont concernées, ont envie de rester à ce niveau-là, donc c'est encourageant.
Et alors, autre bizarrerie de ce championnat, c'est ce calendrier quand même. Vous jouez un match, 3 semaines de repos, un match, 3 semaines de repos, et puis après, le match contre Guingamp, vous allez enchaîner 3 matchs d'affilée, c'est complètement ahurissant ce calendrier.
Ouais, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, notamment pour garder le rythme. En fait, bon, c'est à nous à nous organiser, à trouver des matchs amicaux. Et puis peut-être, si on avait été qualifié encore en Coupe de France, eh bien, ça serait pas le cas. Comment ça ça serait pas le cas. Donc bon, voilà, c'est vrai que c'est une des particularités. Mais je te dis, on va essayer de bien le gérer. On trouve des matchs amicaux. On fait le travail qu'il faut la semaine. Ça leur permet également ben, d'avoir des temps de repos. On leur laisse tant qu'on peut les week-ends. Donc à leur demander un maximum de travail la semaine. Voilà. Donc oui, c'est atypique, mais bon, ça se gère. Après, c'est vrai que ça va être vraiment un sprint final sur le mois de mai, puisque là, par contre, on enchaîne les 3 matchs d'affilée sans coupure. Donc là, on va être plus, je pense, sur de la gestion, sur la régénération, tant physique que mentale.
Allez, on va finir avec de la projection, on va se projeter vers l'avenir. Ce match contre Guingamp, un prétendant aussi au maintien, c'est un match, on va dire, à 6 points. Vous avez 3 semaines pour le préparer. Quels vont être les mots d'ordre et quels sont les préceptes que vous allez mettre en place pour amener vos filles en Bretagne au top de leur forme?
Bon, déjà, ce ne sera pas un match à 6 points, c'est un match à 3 points. D'accord, tout ça pour dire qu'en fait, non, il restera encore le Paris FC qui, là, oui, voilà, sur ces 2 matchs, il y aura 6 points à prendre. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ira à Guingamp conquérant. Ça, c'est évident, on ira pour amener des points. Donc, on mettra tout en œuvre pour amener 3 points. Après, on pourra se contenter également d'un point selon la physionomie du match. Ça va dépendre. Mais quoi qu'il en soit, on ira à Guingamp pour ramener la victoire et peut-être pour prendre un bol d'air avec Rodez, qui est le premier relégable actuellement. Donc voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que, mine de rien, on est maître de notre destin, mais on regarde de fait le résultat des autres matchs. Donc même si on fait un résultat positif à Guingamp et que Rodez bat Fleury, eh bien, on sera presque statu quo. Donc voilà, je pense que le championnat ne sera pas joué encore contre Guingamp. On y verra encore plus clair après PFC, c'est sûr. Mais voilà, si on peut faire un pas en avant et revenir avec les 3 points, on le fera.
Alors je parlais de match à 6 points parce qu'il y a quand même beaucoup de confrontations entre équipes qui jouent le maintien. Et en cas de victoire et de résultat, on va dire, positif de l'autre côté, vous pouvez faire quand même le trou et le maintien pourrait se dessiner un petit peu.
Non, mais c'était pour t'embêter. J'ai bien compris que oui, ce match va être d'une importance capitale. Surtout que plus on avance, moins il va rester de matchs. Donc, si on revient bredouille, je dirais de Guingamp, bon, ça va être compliqué. Mais encore une fois, ça va dépendre du résultat de Rodez Fleury. Si on ne prend pas de points et que Rodez perd contre Fleury, ben, on sera toujours à un point devant Rodez. Donc, voilà, ça pourrait nous laisser plus de souplesse et ça nous permettrait d'aborder. PFC avec un peu plus de, entre guillemets, décontraction, parce que je pense qu'on sera attendu jusqu'au bout. Moi, je le saurai jusqu'au bout, en tout cas.
Allez, juste pour finir, votre état d'esprit avant ce match à Guingamp dans 3 semaines, cette lutte au maintien.
Conquérant, ambitieux, détendu aussi, pour l'instant. Je pense que plus on s'approchera du match, moins on le saura, moins le groupe le saura. Mais voilà, état d'esprit... positif, voilà, avec l'envie de bien faire, l'envie de s'en sortir et avec une bonne ambiance de travail.
Et merci Patrice et à très bientôt. Après avoir écouté le Puritainois des Albigeois, nous allons passer à notre nouvelle rubrique du Maxport spécialement dédiée à nos auditeurs d'Outre-Atlantique qui suivent avec passion les aventures de nos 3 Canadiens de la SPLT. Notre rubrique Québec Info.
Le TVA Nouvelle commence maintenant.
Inaugurons cette rubrique avec Gabi, la portière de la SPDT Albi. Donc nous sommes avec Gabrielle Lambert, la plus canadienne et québécoise des portières de DM féminine, qui va inaugurer avec nous aujourd'hui notre nouvelle rubrique Québec Info ou Canada Info pour donner un peu des nouvelles outre-Atlantique à nos auditeurs qui suivent les aventures de nos 3 québécoises et canadiennes. Donc toi, Gabi, Harry et Pilou. Donc Gabi, bonjour déjà.
Bonjour.
Donc Gabriel, on va tout d'abord revenir bien sûr sur ce match contre le RAF, contre les Rafettes de Rodez. C'est un match qui doit te laisser quand même pas mal de déceptions, j'imagine.
Ben oui, clairement, on est déçus quand même parce que on fait l'ouverture du score quand même assez tôt. On est bien en place en première mi-temps, tout va bien. Et après, puis leur secret, il est quand même... l'occasion quand même petit jeu où il y a peut-être penalty, peut-être pas. Et après, peu de temps après, ben nous, on s'en fait siffler un. Donc, ouais, quand même déçu de ne pas l'arrêter aussi.
Alors, quand on a vu ta réaction sur le penalty, on sait que tu es connue pour être un peu une râleuse sur le terrain. Mais là, on a vu que tu râlais pour de bon parce que c'était une injustice pour toi, ce penalty.
Ben oui, après, ça c'est dans le feu de l'action aussi. Pour moi... Je crois pas qu'il y ait pénalty parce que, bon voilà, après je me suis laissé emporter quand même. Je devrais contrôler un peu plus mes émotions, mais ouais, c'est frustrant de voir que quelques minutes plus tôt, on a une action qui est aussi à peu près litigieuse comme ça dans l'autre surface et qui est pas sifflée. Quelques minutes plus tard, c'est contre nous. Et c'est, je pense que c'est une accumulation. Souvent, c'est contre nous. Donc, à un moment donné, oui, c'est décevant, quoi.
En plus, ce qui est rageant pour toi quand même, c'est que tu avais travaillé les pénalties de Lemaître. Tu savais qu'elle allait tirer sur ta droite, tu plonges du bon côté, tu effleures le ballon, mais il manque un centimètre. C'est rageant, ça.
Ouais, c'est rageant. Bon, après, même si j'avais une idée qu'elle allait tirer là, le tireur a changé d'idée, donc on n'est pas sûr à 100%, mais oui, je m'en allais de ce côté. Après, j'y touche, donc c'est encore plus rageant, mais... Ouais, après, je suis décidé de ne pas l'avoir arrêté et pas avoir gardé l'équipe dans le match, quoi.
Bon, de toute façon, maintenant, on imagine que tu es focus sur le prochain match, c'est-à-dire Guingamp, où là, il va falloir à tout prix aller faire l'exploit en Bretagne.
Oui, c'est clair. Ben, le match est passé. On essaie de... on a fait quand même une bonne performance. Après, on a repris le chemin du but, quand même. Donc, ça, c'est important. Donc, oui, après, là... tous les efforts vont être portés sur le match contre Guingamp et il faut aller chercher 3 points là-bas et faire un peu le break. Parce que bon, les 3 points là-bas pourraient nous permettre de souffler un peu quand même.
Et puis en plus, dans les points positifs, on le répète un peu sur Radio LBGS, quelque chose qui nous a beaucoup plu, c'est l'état d'esprit qu'il y avait contre Rodez. S'il y a le même état d'esprit contre Guingamp, il peut y avoir à la fin une jolie chose qui se passe.
Ouais, voilà, mais oui, en plus de retrouver le chemin du but, on avait eu bah, des reproches de tout le monde, hein, mais nous-mêmes on était déçus du match contre Marseille où est-ce que justement il y avait eu un... il y avait rien eu en fait justement. Mm-hmm. On n'était pas là du tout, il y avait un manque d'envie, un manque de tout je pense, et là quand même de retrouver cette envie-là, tout le monde était dans le même état d'esprit, un bon état d'esprit et tout, donc non, de le retrouver, déjà on l'avait retrouvé un peu à Lyon quand même, malgré la défaite, et là de le garder contre Rodez, c'est de bon augure pour gagner, suite. Parce que oui, avec un état d'esprit comme ça, et l'envie qu'on a montré, on peut aller faire des belles choses à Guingamp, oui.
Il peut rien vous arriver à cet esprit. Allez, Gabi, on va finir cette interview avec te demander de faire peut-être un petit message à nos auditeurs québécois. On sait que tes proches, la famille de Harry, la famille de Pilou, nous suivent quelquefois sur les ondes. Tu as un petit message à leur passer à ta famille, à tes proches outre-Atlantique au Canada?
Bah non, mais c'est sympa qu'ils nous suivent. En général, c'est cool. Ils sont quand même vraiment investis dans ce qu'on fait ici et ils nous suivent beaucoup. Et on a hâte de rentrer quand même, mais on va se concentrer sur les 3 matchs qu'on a à faire et après, on a hâte de les retrouver quand même.
Ok, ben on va rester sur ces belles notes à la fin et on te souhaite de passer un bon week-end après cet dernier entraînement qui va avoir lieu là dans quelques heures vendredi et puis que tu nous reviennes en forme en essayant d'éviter que tes chevilles qui couinent comme on dit et que tu puisses nous sortir une grosse prestation contre Guingamp.
Merci beaucoup Eric.
À partir de ce vendredi, une fois par semaine, nous vous ferons vivre le quotidien de nos Québécoises et Canadiennes rouges et jaunes, Gabi, Harry et Pilou, qui s'exportent et qui exportent la SPTT à l'international. Mais rassurez-vous, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, comme depuis le début de la saison, de tout le reste de la vie de et du club et des échéances de nos valeureuses. Allez, maintenant passons à notre troisième volet de ce mag, le vélo, avec un petit point tout d'abord par notre contributeur masqué d'un seul œil, notre blondin local, sur les derniers résultats de l'Occitane Cyclisme Formation. Dans la course classique Sénac-Saint-Julien en Dordogne, le coureur de l'Occitane Cyclisme Formation, Adrien Thomas, échappé depuis le départ de l'épreuve avec 4 coureurs, termine deuxième et Stéphane Pouyès prend la 7e place. Guillaume Gaborio remporte quant à lui le circuit Boussacain et profite de sa bonne forme du moment pour terminer 2e du Grand Prix de Féricy en Seine-et-Marne. Au classement de la DN1, l'OCF occupe la 10e place. Toujours dans le registre vélo, passons maintenant à notre interview exclue Radio Albigès avec le président d'une des courses à étapes les plus prestigieuses du mois de juin, la Route du Sud, qui depuis 2 jours a changé de dénomination. Nous avons la joie d'avoir à notre antenne le président de Feu, la Route du Sud, tout fraîchement renommé Route Occitanie, Pierre Cobain. Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Alors, monsieur Cobain, hier mercredi, il se tenait à l'hôtel de région une conférence presse autour de la 42e Route du Sud avec une annonce majeure, le changement de dénomination de la course à étape 100% sud-ouest en Route d'Occitanie. Vous pérennisez un engagement qui était déjà fort avec la région et allait même au-delà. Quels en sont les intérêts et où les retombées et quelle est la feuille de route de ce nouveau partenariat, dirons-nous, assez fort?
Oui, alors tout d'abord, ce que je veux dire, effectivement, ce sera la 42e édition et notre épreuve sous la houlette de notre ami Tarné d'origine, Francis Aurillac, qui avait créé l'épreuve. L'épreuve s'appelait donc de 77 à 80 le Tour cycliste du Tarn. En 81, ça a pris le nom du Tour cycliste du Tarn et du Rouergue. C'est passé ensuite Tour Midi-Pyrénées de 82 à 87 pour devenir donc la Route du Sud depuis 1988. On a tout simplement voulu coller notre épreuve à la région administrative et en lui donnant le nom qui je dirais que la Route d'Occitanie, l'Occitanie colle bien à l'extérieur et même à l'international. Ça a une identité pour nous beaucoup plus forte que la Route du Sud.
C'est plus porteur.
C'est plus porteur, exactement.
Alors, sinon, on sait aussi que nos confrères de la Dépêche du Midi étaient le partenaire, dirons-nous, numéro 1 jusqu'à présent. Qu'advient-il du journal qui informe vite et bien? Et comment ont-ils pris cette mise, dirons-nous, au second plan?
Non, alors, c'est pas du tout une mise au second plan. La route d'Occitanie le groupe La Dépêche du Midi est toujours à nos côtés.
D'accord.
Et voilà, il n'y a aucun souci, c'est notre partenaire associé.
D'accord. Donc, allez, maintenant, on va passer à la course et cette 42e route d'Occitanie qui sera la première du nom. Hein. Alors, tout d'abord, revenons sur le parcours dans son ensemble. Vous avez un brin musclé le tracé pour cette cuvée, avec entre autres une troisième étape qui sera un véritable jeu de paix avec l'arrivée en altitude dans la station ariégeoise des Monts d'Olmes.
Oui, tout à fait. On est toujours sur un standard de 4 jours. Elle se déroulera du jeudi 14 au dimanche 17 juin, avec une traditionnelle étape de montagne le samedi. Donc, et puis, bien sûr, notre département d'origine, le Tarn, sera gâté, bien sûr, et c'est normal, avec une première étape donc le jeudi une première étape que l'on a dénommée Cap Découverte Ségala Carmo, avec un grand départ donc sur le site de Cap Découverte, une arrivée centre-ville à Carmo. Voilà, une étape de 168 km. L'étape du vendredi 15 juin sera donc entre Saint-Gaudens, qui nous recevra pour la 30e fois, mm-hmm. et Massub. Une étape de 178 km à travers la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Et puis nous revenons en Ariège, 10 ans après, au Mont d'Olmes toujours. En 2007, donc, on avait fait une arrivée là-bas, qui s'était super bien passé. C'est un département où Francis Aurillac et tous les bénévoles de la Route du Sud ont officié, entre guillemets, pendant de nombreuses années. Donc on revient avec beaucoup de plaisir dans ce département.
Et puis c'est un grand département de vélo, l'Ariège.
C'est un grand département de vélo, tout à fait, avec une belle cyclosportive, l'Ariégeoise, la Ronde de l'Isard, etc. Donc voilà. Donc un départ de Prat-Bon-Repos, une étape de 198 km 400, avec le port de l'Herbs, le pas de Souloumbri, le col du Chioula, le col de Montségur, mm-hmm. et puis une arrivée au Mont d'Olmes. Et la dernière étape donc qui verra un départ de Mirepoix, toujours dans l'Ariège.
Mm-hmm.
Et puis on va se promener entre le Tarn à nouveau, avec un passage au Pic de Nord. On empruntera 40 ou 41 km de l'étape du Tour de France entre Millau et Carcassonne.
Vous ouvrez la route.
On ouvre la route, voilà. On ouvre la route et ensuite on se promènera entre l'Aude et puis on finira dans l'Hérault, donc à Cazouls-les-Béziers, avec une étape de 192 km 700.
Alors il s'était parlé, dans les échos qu'on avait eus il y a quelques mois, d'une possible arrivée au Mont-Saint-Clair. Hein, c'est que partie remise, parce que ça aurait eu, comme on dit dans le jargon, de la gueule quand même, une arrivée au Mont-Saint-Clair.
Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ils ont beaucoup, beaucoup de manifestations.
Mm-hmm.
Donc ce n'est que partie remise, oui. On a de très bons contacts avec monsieur le maire de Sète et... Je pense qu'on y arrivera dans les prochaines années.
Bon, très bonne nouvelle. Alors, comme vous le savez, on est une radio locale tarnaise et fière de l'être. Alors, deux étapes ont attiré plus particulièrement notre attention. Vous avez un peu parlé. Tout d'abord, oui. L'étape inaugurale 100% Ségala Carmozin entre Cap Découverte et Carmo.
Oui.
Et qui, si mes échos sont bons, une étape qui a été un peu reconnue par un fin connaisseur de ces routes, Stéphane Pouyès. Et aussi l'ultime étape entre Mirepoix et Cazouls-les-Béziers, que vous parliez, qui passera par le Tarn et la Montagne Noire via le Pic de Nord. Vous pouvez nous la détailler un peu plus en profondeur, ces deux étapes, surtout les parties tarnaises, puisque le public tarnais, je pense, se massera en nombre au bord des routes.
Bien sûr, alors d'abord, on se doit, puisque c'est notre département d'origine, et puis parce que le conseil départemental du Tarn est à nos côtés depuis la création de l'épreuve.
Oui.
Il parraine notamment le maillot du meilleur sprinter, le maillot vert. Donc on se doit d'être bien sûr dans le Tarn avec beaucoup beaucoup de plaisir. On a effectivement tracé cette étape avec notre ami Stéphane Pouyès. Donc c'est une étape qui partira de Cap Découverte, qui ira tourner à Cordes-sur-Ciel.
Mm-hmm.
On sera à la côte de la Parroquiale. Un passage à Mirandol, Almérac, un premier sprint bonification à Pampelonne,
mm-hmm.
Tanus, la côte de Montoriol, Val de Riès. On passera une première fois donc à côté de... On repassera aux abords de Cap Découverte.
D'accord.
La côte de Mascrabière. Un deuxième sprint bonification à Villeneuve-sur-Vert. Et puis on fera un premier passage sur la ligne d'arrivée à Carmo. Alors je voulais remercier monsieur le maire et l'ensemble de la mairie de Carmaux de nous avoir...
Qui joue le jeu, on va dire.
Ouais, il joue le jeu surtout parce qu'on va faire une arrivée centre-ville au niveau de la place Gambetta. Mmh. On fera donc un premier passage et puis on ira retourner sur Blaye-les-Mines, Monestier pour revenir à Carmaux. Donc pour les spectateurs, ça sera sympa, ils verront passer les coureurs une première fois.
Alors c'est une vraie étape de baroudeur, cette étape dans le Carmozain. Un Lilian Calmejean, s'il nous fait le bonheur de venir, ça peut être une étape qui lui convient, ça.
Oui, c'est tout à fait le profil de coureur pour cette étape-là, oui, tout à fait.
Alors, on va passer sur un autre sujet. Cette année, pour cause de Coupe du Monde de foot, le Tour de France est décalé d'une semaine, faisant de votre course et du Tour de Suisse les deux seules courses à étapes de renom avant la Grande Boucle. Ça change quoi dans la pratique? Vous avez eu plus d'équipes intéressées qu'à l'accoutumée, ou la route d'Occitanie a une clientèle fidèle?
Alors, je dirais un peu les deux. On a, oui, quelques équipes fidèles, mais c'est vrai qu'on a actuellement le plateau qui est arrêté à 17 équipes de 7 coureurs. Mais depuis 48 heures, il y a de grosses formations qui tapent encore à la porte pour essayer de venir, justement pour ce que vous venez de dire, hein, puisque il y a le Tour de Suisse et puis il y a nous, quoi, juste avant le départ du Tour de France.
Alors, en parlant d'équipe, quelles sont, en termes de coureurs et autant que d'équipe, les forces en présence? Nos grandes oreilles à Radio Albigès nous ont fait savoir qu'il y aurait un superbe plateau en perspective, avec, comme chaque année, pléiade de grands coureurs en devenir.
Oui, voilà, alors c'est un peu la route du Sud, l'objectif aussi de notre épreuve. Et quand on regarde le palmarès, on voit par exemple un Pierre Latour qui finit troisième en 2015 derrière Contador Quintana. Un Marc Soler qui finit deuxième en 2016, Marc Soler qui vient de gagner Paris-Nice et qui, d'après moi, est un des futurs grands. Oui, ça, c'est une épreuve qui a dévoilé, on dira, des grands noms. Et pour preuve, le vainqueur 2017, l'an dernier, certains me disaient, mais qu'est-ce que c'est ce coureur, Sylvain Dillier? Ben, ce coureur, depuis la victoire sur la route du Sud l'an dernier, il est devenu champion de Suisse et puis il vient de finir côte à côte avec Peter Sagan sur Paris-Roubaix, donc c'est pas rien. Oui. Voilà, c'est un petit peu un mix entre des coureurs de renom, voilà, Contador, Quintana, on espère peut-être plus, et puis des jeunes coureurs en devenir, tout à fait.
Alors après aussi, quelque chose qui est quand même assez sympa pour votre course et cette édition, côté infrastructure, suiveurs et même médiatisation, la route du Sud, la route d'Occitanie même, il va falloir qu'on s'habitue à cette nouvelle dénomination, prend un sérieux essor puisque vous allez avoir une caravane quasiment digne du Tour et une couverture médiatique assez colossale avec Eurosport.
Oui, on a signé une convention avec Eurosport sur 5 ans qui se termine en 2019 d'ailleurs, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour la reconduire. Oui, c'est un gros coup de projecteur pour notre course, dans la mesure où on a 1h30 de direct entre 15h et 16h30 tous les jours, dans un peu plus de 80 pays dans le monde. Mmh. Et puis, vous l'évoquiez, la caravane publicitaire, oui, qui prend de l'ampleur, c'est environ 70 véhicules. À l'instar du Tour de France, sur les mêmes bases, elle part 1h30 avant les coureurs, elle fait tout le circuit pour arriver à peu près 30 à 35 minutes avant les coureurs.
C'est une grosse machine maintenant, la route Occitanie. C'est plus la petite course qui était naissante dans les années 60-70. Maintenant, c'est devenu quand même une machine colossale.
Oui, c'est une machine colossale et il faut savoir que nous sommes tous bénévoles. Donc voilà, le cyclisme français étant organisé comme ça, ce sont pour la plupart des bénévoles qui organisent des courses pour des professionnels.
Mais c'est bien de le noter. Parce que sans, voilà, force, ouais, sans force bénévole, sans ces forces vives, il n'y aurait pas de route du Sud ni de route d'Occitanie.
Bien sûr.
Alors, ouvrons, si vous le voulez bien, la boîte aux souvenirs. Pour vous, en trois dates, quels sont les événements, les éditions qui vous ont le plus marqué ou les plus légendaires de la route du Sud? Enfin, de la route d'Occitanie, il faut s'habituer pour être au goût du jour.
Ben, moi, j'ai pris la présidence en 2014, donc je parlerai surtout des quatre épreuves que j'ai présidées. Mmh. Mon plus grand souvenir, c'est la montée du port de Balès en 2015, avec une bataille entre Contador et Quintana, et puis ce jeune coureur que personne ne connaissait, qui s'appelle Pierre-Roger Latour. Mmh. Et ça reste un de mes grands souvenirs, avec beaucoup, beaucoup de monde, un hélico d'Eurosport, voilà, les caméras à l'intérieur de la course, des caméras embarquées dans les véhicules directeurs sportifs, c'était un moment inoubliable pour moi.
Un grand moment de cyclisme comme on les aime. Alors, une question qui s'est souvent murmurée, même très souvent dans le milieu cyclisme, on connaît tous votre proximité avec ASO. Hein. Pourquoi ASO, qui est organisateur de la Vuelta, du Dauphiné et surtout du Tour de France, ne vous intègre pas dans son giron d'épreuves qu'il organise ?
Ah, alors ça, j'aurais du mal à vous répondre, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors ce qui est sûr, c'est que oui, bien sûr, on a Francis Aurillac qui était proche à la fois de Jean-Marie Leblanc et de Christian Prudhomme. Je suis moi-même proche de Christian Prudhomme, qui vient d'ailleurs sur notre épreuve tous les ans. On sert aussi d'éclaireur, hein, pour le Tour de France, pour Amaury Sport Organisation. Par exemple, le plateau de Beille, Peyragudes. Et puis cette année encore, un départ à Trie-sur-Baïse, c'est nous aussi qui avons ouvert la route pour le Tour. Voilà, c'est
un mini laboratoire.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis la découverte de nouveaux cols, voilà, etc.
Allez, une avant-dernière question, Pierre Cobain. On a entendu dire que Perrine Laffont pourrait être peut-être au Mondol, mais pour faire honneur de sa présence, que Christian Prudhomme, patron d'ASO et du Tour, viendra sur une étape, mais il est prévu d'autres guest stars durant ces 4 jours de course.
Bah, écoutez, on a quelques trucs, quelques présences essentiellement de sportifs de haut niveau sous le coude, oui. Mais pour l'instant, rien d'officiel. Bon, après, à noter quand même que nos chauffeurs de véhicules invités sont, on va dire, à 90% des anciens coureurs professionnels, hein, Christophe Agnoluto, Pascal Chanteur, Jacques Bossis, Hubert Harbe, des garçons qui nous ont rejoints récemment, puisque c'est important aussi de travailler avec les copains, hein, les copains anciens coureurs pro de la région, Mathieu Perger, Stéphane Pouillette, on l'a évoqué tout à l'heure.
Bien sûr.
Julien Loubet qui est un copain de longue date et qui vient d'arrêter sa carrière et qui va sûrement nous rejoindre cette année.
Et qui avait porté le maillot de leader pendant 2 étapes lors de la dernière édition.
Ah, qui m'a fait un plaisir. On parlait de moments inoubliables, c'est peut-être ça aussi. Ça en fait partie aussi. Julien est comme un joie, comme moi, originaire de Saint-Gaudens. Et le premier maillot de la région Occitanie l'an dernier, ben, c'est lui qui l'a porté à Saint-Pons-de-Thomières. Donc ouais, c'était un super truc. Et puis aussi nos acquaintances avec le milieu du rugby. On a Serge Gabernet qui est à nos côtés. On a Philippe Denfran. Voilà, c'est quand même assez sympa.
Et ouais. Du lourd, comme on dit.
Et du lourd.
Alors en parlant, vous m'avez tendu la perche parce que moi aussi j'ai des attaches dans le Comminges. J'en parle à le Comminges. Il y a une arrivée qui me ferait rêver, qui ferait rêver tous les gens du Luchonnet. C'est une arrivée en haut de Super Bannière ou à l'Hospice de France. Ça peut s'envisager dans les prochaines éditions?
Ah oui, bien sûr, oui. Oui. On a ça sous le coude aussi, oui.
Ça, oui. Ça aussi, ça aurait de la gueule quand même.
Oui, tout à fait. Ouais, l'Hospice de France particulièrement, oui.
Ouais. Parce que c'est très peu connu, mais elle est rude, la côte de l'Hospice de France. Il faut se l'appeler.
La Ronde de l'Isard a fait une arrivée l'an dernier,
oui,
je crois.
Oui, tout à fait.
C'est Sivakov qui avait gagné là-haut, je crois bien.
Ouais. Et ça a été un superbe spectacle. Ouais, allez, la dernière question. On sait que cette édition sera un hommage à Francis Aurillac et que le thème central de cet opus de votre épreuve sera le rugby et le vélo, pour preuve l'arrivée à Massob, patrie de Yannick Bru. Mais il en est un qui aimait beaucoup le vélo et qui eut une belle carrière de rugbyman, Bernard Bacab, qui nous a subitement et malheureusement quitté en ce mois d'avril. C'était le président de l'ASMAD Cap Découverte et une des chevilles ouvrières pour la venue de votre course en terre carmosine. Vous avez prévu, par exemple, lors de la soirée inaugurale à Carmo, le 13 juin, de faire quelque chose, de lui rendre un vibrant hommage à Bernard Bacab?
Oui, alors d'abord, merci de le souligner. C'est grâce à lui, Bernard Bacab m'a téléphoné l'an dernier, fin juin. Mm-hmm. Et c'est grâce à lui que voilà qu'on a enclenché tout ça. Et on avait tous les deux prévu une journée donc avec les associations de tout sport confondu, du Carmozin, du Tarn, mais aussi de l'ensemble de la région d'Occitanie. Donc ça, ça perdure, hein, on est en train de le mettre sur pied. On se doit de faire ça, ne serait-ce qu'un hommage à monsieur Bernard Bacab. Mmh. Et puis, comme vous l'avez souligné, à Francis, bien sûr, Aurillac. Donc, ça sera, oui, une journée un petit peu souvenir pour ces deux grands hommes du Tarn.
Allez, on va, avant de vous quitter, parce qu'on est gourmand à Radio Albigès, une dernière petite question, la question décalée Radio Albigès. L'association des anciens joueurs du Sporting Club Albigeois, Ensemble, on risque rien, organise un tournoi de rugby touché, festif et caritatif, et les 8 et 9 juin à Cap Découverte. Au vu du thème de cette 42e route Occitanie, le rugby, est-il envisageable que des passerelles soient créées entre les deux événements et de voir une équipe de bénévoles de la route du Sud fouler les pelouses de Cap Découverte pour faire un brin de rugby?
Ben écoutez, on a un conseil d'administration de l'association Route du Sud très prochainement. J'en fais part à tous mes amis et puis on vous tient au courant.
Ah ben c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est un événement aussi où Radio Albigès est partenaire avec l'UCIRAC, le rugby ministère, et qui porte des belles valeurs, puisque c'est pour venir en aide à une petite fille qui a des soucis de santé, et qui est un événement qui est organisé par nos amis de Ensemble on risque rien, les anciens joueurs du Sporting Club Albigeois.
D'accord, ok.
Bon, mais Monsieur Cobain, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et on invite tous nos auditeurs du 14 au 17 juin à suivre sur les bords des routes Occitane, à la télé ou même à la radio, cette 42e édition de la Route du Sud, nouvellement Route d'Occitanie.
Merci.
À très bientôt, Monsieur Cobain, sur nos antennes. Au revoir.
À très bientôt, au revoir.
C'était l'interview présidentielle Radio Albigès. La route d'Occitanie et non plus la route du Sud, un événement que vous pourrez suivre lors de la première étape 100% tarnaise entre Cap Découverte et Carmaux en direct sur Radio Albigès. Allez, sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, pour cause de pont et de match à Rouen où nous nous déplaçons, le Maxport sortira uniquement le mercredi 2 mai sur le web et sera rediffusé vendredi à 17h à quelques heures avant la demi Sporting contre le Rouen Normandie Rugby. Sur ce, je vous souhaite un bon et long week-end et je vous dis à Desias.